l'accompagne. Et il faut qu'il y ait ce premier mystère du culte familial dans l'attente de l'enfant, l'avant de l'Église. Il y a un avant dans chaque famille et dans chaque jeune foyer. Et quand les parents sont les grands-parents, je crois qu'ils peuvent s'unir à cet avant. Et c'est important de comprendre cela. C'est le premier moment du culte familial, cela. C'est là où la famille reconnaît son sacerdoce royal, qui est un sacerdoce qui remercie. C'est la première dimension du sacerdoce royal. C'est de remercier Dieu de ses bienfaits. C'est le Magnificat familial. Il faudrait que chaque famille compose son Magnificat. Ou prenne le Magnificat de Marie, n'est-ce pas? Mais et son Magnificat. Et quand on vit le mystère de l'Avent dans un jeune foyer ou dans un foyer plus âgé, et quand on vit ce mystère de l'Avent chez des grands-parents par rapport à leurs enfants, il faut que le Magnificat soit là, présent. Et je suis persuadé, je ne peux pas dire plus, que la Vierge Marie écoute d'une manière unique une jeune maman qui attend son enfant. Elle l'écoute d'une autre manière que lorsqu'un célibataire dit son Magnificat. J'en suis sûr. Il faut découvrir cela. Il faut que les mères découvrent cela. Il faut que les grands-mères découvrent cela. Il y a un lien avec la maternité divine de Marie. La maternité divine de Marie, elle est contemplative. Et toute l'Église commence par la maternité divine de Marie. Et la maternité divine de Marie, elle est fondamentale pour l'Église. Et elle est contemplative. La maternité des mères chrétiennes, je ne dis pas qu'elle est contemplative. Ce serait trop beau. Mais elle doit être chrétienne. Et donc, elle doit impliquer l'action de grâce. Elle doit impliquer un amour particulier d'attente vis-à-vis du don que Dieu fait à la mère, du don que Dieu fait à la famille. Il faut donc découvrir dans le Magnificat, je ne le fais pas ici avec vous, mais je crois que ce serait très très beau, aujourd'hui, de recomposer un Magnificat pour les jeunes mères, pour les mères plus âgées et pour les grands-mères qui attendent l'enfant. Il y a une liturgie de l'attente. Et cette liturgie de l'attente, l'Église la célèbre. Si l'Église la célèbre, il faut que chaque famille la célèbre. Et cette liturgie de l'attente, c'est cette première prière qui est une prière d'action de grâce, de remerciement, qui est une prière aussi qui doit demander l'aide. C'est toujours un peu angoissant, c'est bien évident. Le premier enfant qu'on attend. Il peut y avoir certaines petites angoisses humaines. Il faut que tout cela soit enveloppé de l'amour. Et il faut que les pères puissent attendre l'enfant, lui aussi, avec une âme religieuse. Et il faut qu'ils comprennent à ce moment-là comment Dieu a voulu qu'il y ait pour Joseph un double choix. Et il faudrait peut-être que les pères, dans leur mission sacerdotale, comprennent cela. Ils ont choisi leur épouse. Et quand leur épouse attend d'un enfant, qu'elle devient mère, il faut qu'ils choisissent de nouveau celle qui attend l'enfant. Il faut qu'ils aient vis-à-vis d'elle un autre regard, un nouveau regard. Le regard que l'ange demande à Joseph. Ça me frappe toujours beaucoup cela. Ces deux regards de Joseph sur Marie. Le premier quand il l'a choisi et le second quand l'ange lui dit qu'elle attend un enfant et que cet enfant est béni de Dieu. Et je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, chacun selon sa modalité, mais durant cette liturgie de l'attente, il y a une liturgie d'avant, la liturgie de l'attente, qui est la liturgie de l'action de grâce. Et quand une famille grandit, hein, quand il y a déjà des enfants qui sont un peu plus grands et que la mère attend un nouvel enfant, il faudrait que toute la famille s'associe à cette liturgie de l'avant. Ça ne correspond pas toujours à l'avant de l'Église, c'est bien évident, mais c'est très bien qu'il y ait cette liturgie de l'avant et qu'on ait le souci de comprendre un peu comment on peut ponctuer divinement cette attente pour qu'on comprenne pleinement qu'on vit d'une alliance sacrée et divine. Si les mères chrétiennes vivaient de cette manière, si les pères chrétiens vivaient de cette manière, si la famille chrétienne vivait ça pleinement, je crois qu'il y aura un témoignage étonnant. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où on ne sait plus la grandeur d'une mère qui attend un enfant. Vous voyez, hein, ce que je veux dire. Avant, quand on voyait une mère qui attendait un enfant et qu'on était assis et que qu'elle était debout, spontanément, hein, on lui offrait le siège pour qu'elle puisse s'asseoir. Spontanément, on la laissait passer devant. Il y avait un respect. Aujourd'hui, plus du tout. Ça n'existe plus. Très souvent, quelquefois, ça existe encore, heureusement, hein, mais ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus du tout le sens sacré d'une mère qui attend un enfant. On n'a plus du tout cela. Alors je crois qu'on doit le redonner. Et que la famille chrétienne doit avoir ce témoignage à donner. Et elle doit avoir ce respect, cette grandeur. C'est quelque chose de divin. C'est pas de l'ordre humain. Ça dépasse la perspective humaine. Il faut pas laïciser l'attente de la mère qui attend son enfant. Il faut pas laïciser cet avant d'une mère. Et la famille doit avoir cette responsabilité, la famille chrétienne. Vous voyez, je crois que c'est très très important cela. La naissance fait partie aussi d'une liturgie. Regardons pour Marie, Bethléem. Il est évident qu'aujourd'hui, hein, j'y réfléchissais en pensant à ce que je devais vous dire aujourd'hui, et ça m'a beaucoup frappé que, de fait, il y a deux grandes liturgies, il y a trois grandes liturgies familiales. Hein, trois grandes liturgies familiales. L'attente, l'avant. La naissance et la mort. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que la mort, elle est arrachée à la famille. Très souvent, l'hôpital. La naissance, elle est un peu arrachée aussi à la famille, moins, heureusement. Alors on doit être très attentif à cela. Parce qu'au fond, la famille vit de ces trois grandes liturgies. Et ces trois grandes liturgies doivent nous faire comprendre ce qui caractérise d'une manière très particulière la famille en tant qu'elle est un lieu consacré à Dieu. Comme nos églises. Mais la famille est un lieu consacré à Dieu. Si on vit vraiment du sacrement de mariage, on doit comprendre que c'est un lieu consacré à Dieu. Alors évidemment, on est dans le monde, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne s'agit pas de jouer aux moines, hein. C'est très très mauvais ça. Des familles qui deviennent monastiques, j'y comprends pas grand-chose moi là-dedans. Mais parce que je crois qu'il y a les moines et puis qu'il y a les familles. Mais il doit y avoir quand même un lien, voyez, entre le point de vue de la vie monastique et la famille, parce que ce sont des familles divines. Alors en tant que famille divine, mais chacune ont évidemment leur rythme tout à fait différent. Une famille chrétienne qui veut avoir un rythme monastique, ça ne va plus du tout. Il ne faut surtout pas être contaminé de cette manière-là. Il faut garder son rythme propre et comprendre qu'on est dans le monde. Mais de là à laïciser complètement, alors là c'est terrible. Parce qu'alors à ce moment-là, il n'y a plus rien de chrétien. Il faut découvrir une liturgie qui soit propre à chaque famille chrétienne. La liturgie de l'Avent, donc de l'attente de l'enfant, du tout petit. la liturgie de la naissance. Et alors la naissance, voyez bien, ça prend un certain temps, c'est bien évident. C'est pas simplement le jour de la nativité. Je dirais, tant que le petit est petit et qu'il ne marche pas, qu'il est le tout petit dans le berceau, et qui tient une place particulière parce qu'il est le tout petit. Et je crois qu'à ce moment-là, il faudrait que tous, dans cette liturgie familiale, nous puissions comprendre d'une façon divine ce que représente la petitesse d'un tout petit. Puisqu'il y a un modèle, Jésus prend toujours cet exemple. Si vous devenez comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. N'y a-t-il pas là quelque chose de très important dans la liturgie familiale, de pouvoir être en présence d'un tout petit qui est complètement dépendant, entièrement remis. Vous voyez, la dépendance de l'enfant qui est dans le sein de sa mère et la dépendance de l'enfant qui est né et qui a besoin du milieu familial, affectif, qu'on ne l'oublie pas, qu'il soit un peu le centre, parce qu'il est le plus faible et le plus fragile, et qui a besoin d'une attention particulière. Eh bien, il faut que tout cela soit remis dans une perspective chrétienne. Dieu veille sur nous comme une mère veille sur son tout petit enfant. Une mère abandonnerait son enfant, Yahvé n'abandonnerait pas Israël. Et il faut comprendre que les liens qui existent entre notre cœur et le cœur de Jésus sont des liens plus forts que les liens d'une mère à l'égard de son tout petit enfant. Et alors à ce moment-là, toute la période de la naissance et de la petitesse de l'enfant doit être constamment pour les membres de la famille, spécialement pour les parents, mais aussi pour les frères aînés, comme un renouveau de ferveur. La présence de l'enfant, c'est un renouveau de ferveur. C'est une reprise radicale de tout, qui fait que la famille s'unit plus profondément auprès du tout petit enfant. Ce petit qui est à charge de tous, qui est donné à tous. Et si la famille est déjà un peu nombreuse, c'est merveilleux, parce que les aînés jouent un peu le rôle de petite mère à l'égard du petit. Et les autres, les fils aînés, un peu le rôle de père. Et ça fait un lien de charité très intense et très grand. Vous voyez, le second moment du sacerdoce royal des fidèles, c'est la charité fraternelle. Premièrement, l'action de grâce, le magnificat, l'attente, la liturgie de l'avant. Deuxièmement, la liturgie de la charité fraternelle. La charité fraternelle fait partie de liens sacrés, divins. Et le tout petit enfant renoue cela. Et fait que, de fait, à partir de là, les liens de la famille se ressoudent beaucoup plus profondément. Et quand la famille n'a plus la possibilité d'avoir de nouveaux tout-petits, alors je dirais que c'est chez les grands-parents, c'est l'autre génération, mais ça joue toujours cela. Il y a une liturgie particulière autour du berceau, une liturgie chrétienne. Et cette liturgie chrétienne, c'est de maintenir une ferveur dans la charité fraternelle, c'est-à-dire une attention à l'égard d'un tout petit, être plus présent pour lui, d'être plus attentif pour lui, en comprenant que tout cela doit être offert à Dieu, parce que ça fait partie d'une véritable liturgie chrétienne. Troisième moment, la première éducation. Alors l'éducation dans la prière. Et le dernier moment, c'est la mort. Alors, je prends la mort avant pour ne pas terminer sur la mort. C'est vrai. La liturgie et le culte familial enveloppent la mort. la mort n'est vécue pleinement qu'en famille. Et seule une famille vit pleinement ce grand mystère de la mort. Et quand la famille n'est plus famille, on ne vit plus de la liturgie de la mort. On l'escabote. On la laisse de côté, on ne veut plus en parler. Vous savez, c'est une constatation que tous les historiens de la religion font, que c'est l'attitude qu'on a à l'égard des morts qui montre l'intensité et le degré religieux d'une communauté humaine. Quand une communauté humaine n'a plus de respect, mais un respect plein d'amour à l'égard des morts, à l'égard de ses morts, ça prouve que cette communauté n'a plus beaucoup d'attitude religieuse. Lorsqu'une famille ne sait plus regarder profondément ce que représente la mort, qu'elle ne veut plus la regarder, ça prouve que cette famille n'est plus une vraie famille et qu'elle n'est plus chrétienne. Parce que de fait, hein, et ça c'est extraordinaire de voir combien c'est un des aspects profondément religieux et chrétien, la mort est confiée à la famille. Et quand la famille se décharge trop vite sur l'hôpital, je ne condamne pas ce que ça peut être, mais vous voyez, je me souviendrai toute ma vie. La demande que m'avait fait ma mère peu de temps avant mourir. Puis-je avoir la grâce de mourir chez moi, entourée de mes enfants? Alors je dis oui. C'est-à-dire qu'elle était assez âgée, n'est-ce pas? Elle avait 90 ans. Alors à 90 ans, on peut justement donner cette grâce. Mais je crois que c'est vrai que c'est une grâce, une mère qui meurt au milieu de ses enfants. Puis-je dire à mon médecin de famille, non, ne m'envoyez pas à l'hôpital. Peu importe, je mourrai chez moi, avec mes enfants, autour d'eux. Et c'est ce qui est arrivé. Et elle le considérait comme une grâce. Et c'est vrai, c'est une grâce. De mourir dans sa famille religieuse, de mourir dans sa famille tout court, chrétienne, de mourir autour des siens. Et c'est un exemple merveilleux pour tous d'avoir assisté à la mort de sa mère, à l'agonie de son père, d'avoir pu vivre ces derniers moments. Il y a une grâce et ça fait partie du sacerdoce royal des fidèles, cela. Ils témoignent de leur lien au Christ jusqu'au bout pour ceux avec qui ils sont le plus proches. C'est-à-dire pour une épouse par rapport à son époux, les parents par rapport à leurs enfants. À ces moments-là, il peut y avoir des choses qui se disent, qui ne pourraient pas se dire autrement. Il peut y avoir certaines communications au point de vue du cœur, le testament d'amour. Il se dit à la fin, il ne s'écrit pas, mais il se dit. Et c'est grand de recevoir cela. Ça fait partie, voyez, de ce grand mystère de la tradition. D'une tradition qui unit les cœurs. Et quand c'est dans la lumière du Christ, je crois que c'est peut-être les plus grands moments, quelquefois, qui se vivent. C'est le mystère de la croix du Christ. On fait l'offrande de sa vie. Et une mère qui fait l'offrande de sa vie au milieu de ses enfants, jeunes ou plus âgés, c'est grand. C'est quelque chose d'unique. N'oublions pas que dans le culte de la famille, hein, ce culte divin de la famille, ce culte chrétien de la famille, il doit y avoir cette liturgie du sépulcre. Ça m'a toujours beaucoup impressionné que de voir que la liturgie du sépulcre, telle que saint Jean nous la donne, ce sont des laïcs. Ce ne sont pas les apôtres. Ce sont des laïcs. Joseph de Nicodème, et Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ce sont des laïcs qui sont là présents. et qui réalise auprès du corps du Christ, auprès du cadavre du Christ, la liturgie religieuse. Il y a une liturgie religieuse et chrétienne qui se réalise en famille. Ce respect du cadavre de celui qu'on aime. Et d'aller jusque-là pour l'offrande nous-mêmes, de tout nous-mêmes et de tous ceux qu'on aime. Je n'insiste pas plus, mais ce serait très important à se rappeler cela. C'est l'offrande que nous faisons à Dieu de ceux que nous aimons le plus. Il ne faut surtout pas mettre entre parenthèses cette possibilité que Dieu nous offre de grandir dans l'amour, sacerdoce royal des fidèles qui va jusque-là offrir à Dieu plus que notre vie, la vie de ce qu'on aime. Et quand ça se fait en présence, ça a un autre caractère que quand ça se fait intentionnellement et d'une façon lointaine. Enfin, l'éducation. L'éducation chrétienne, la mère, doit apprendre à l'enfant à prier. La prière en famille est nécessaire, même si elle est quelquefois très difficile. Elle est toujours possible quand l'enfant est tout petit. Et la mère doit très vite apprendre au tout petit à prier avec elle, à faire le nom du Père, à dire son amour pour le Christ, à réciter l'Ave Maria et notre Père. Il faut que la mère comprenne son rôle de sacerdoce royal, de porter l'enfant auprès du cœur du Christ, d'apprendre l'enfant à prier, à adorer. C'est la première éclosion de la foi. Il est bien évident que les parents ne donnent pas l'âme spirituelle à leur enfant. C'est Dieu qui donne cette âme spirituelle. Les parents ne donnent pas à l'enfant la foi, l'espérance et l'amour et la grâce. C'est le Christ qui leur donne la foi, l'espérance et la grâce par le baptême. Nous le verrons la fois prochaine. Mais l'exercice premier de la foi, ce sont les parents, c'est la mère. Parce que je crois que la mère est plus proche de cette première éclosion de la foi. C'est la mère qui doit permettre cette première éclosion de la foi. Et c'est ce qu'il y a de si grand, afin que tous crussent par lui. C'est dit dans le prologue de Saint Jean, à propos de Jean-Baptiste. On pourrait dire ça d'une mère de famille. Afin que tous ses enfants crussent par elle. Elle est responsable en face de Dieu de cette première éclosion de la foi dans l'adoration. Apprendre à l'enfant le sens de la présence de Dieu, de la présence du Christ. Apprendre à l'enfant à regarder l'invisible. Et un enfant le fait beaucoup plus facilement qu'une grande personne qui raisonne un peu trop. Un enfant porté par sa mère le fait normalement. N'ayons pas peur en disant à ce moment-là, l'enfant ne comprend pas. Vous croyez qu'une grande personne comprend mieux sa foi ? Non. Dieu veut que nous soyons comme des tout-petits. Et Dieu veut que nous soyons ceux qui aient cette confiance totale dans ces exercices très simples de la prière. Que la mère apprenne l'enfant à ponctuer sa journée par l'adoration, par un regard vers Jésus, par un sourire vers Jésus et vers Marie. La seule chose que Marie réclame de nous, que tous les jours, au matin, on lui fasse un sourire pour lui donner notre bonne humeur, pour lui donner toute notre capacité d'aimer et qu'on puisse progresser dans cet ordre-là. L'éducation de la foi se fait par la louange. Et il faut comprendre que très vite, il faut apprendre l'enfant à louer Dieu, le remercier, lui demander que l'adoration s'accompagne, voyez, par ces différents moments de la vie liturgique. C'est la liturgie familiale qui passe par le cœur de l'enfant et la liturgie familiale doit prendre possession du cœur de la mère, mais si la mère n'a pas suffisamment ce sens de sa dépendance à l'égard de Dieu, elle ne pourra pas le transmettre. Et c'est pour ça que l'enfant, quand la mère aime son enfant et qu'elle l'aime en tant que chrétienne, l'enfant obligera la mère de prier plus pour pouvoir communiquer davantage à son enfant, pour pouvoir permettre qu'il y ait quelque chose qui puisse se transmettre, qui puisse se donner. Voyez, ce premier moment liturgique qui me semble si important, la prière auprès de la mère. Et quand l'enfant grandit, il faut maintenir cette prière en famille. Encore une fois, dans la mesure où l'on peut. Mais je crois que très souvent, on peut beaucoup plus que ce qu'on fait. On a un tout petit peu peur, parce que les aînés grandissent, alors, et qui veulent avoir leur indépendance, tant pis s'ils ne veulent pas, on leur dit qu'ils sont libres. Et on continue. Et je crois que l'exemple des parents qui continuent de faire la prière avec les petits, c'est un grand exemple pour les aînés. Même s'ils ne veulent pas l'entendre parler, ça restera. C'est un témoignage. Il faut que la famille soit un milieu de prière. La famille chrétienne, encore une fois, selon ses modalités particulières. Mais il faut que ce soit un milieu de prière. C'est pour cela qu'il faut, dans toute famille chrétienne, qu'il faut qu'il y ait des crucifix, qu'il faut qu'il y ait des icônes de la Vierge Marie. Il y a de très belles icônes de la Vierge Marie aujourd'hui, et alors il faut mettre des icônes de la Vierge Marie dans la famille. Qu'on ne le mette pas peut-être là où, si on reçoit des gens qui sont tout à fait différents, mais qu'il y a un lieu de prière. Un lieu de prière pour sanctifier la famille et se rappeler que les parents ont de fait, par leur grâce de parents, ont cette responsabilité de cette première liturgie. Et je crois que la liturgie ne peut se réformer que si, du côté de la famille, il y a cette première réforme. Si on vit une certaine liturgie familiale, certaine adoration silencieuse, certaine louange, si on vit cela, on pourra mieux comprendre la liturgie de l'Église. Il y a la liturgie fondamentale de la famille, et puis il y a la liturgie universelle de l'Église. Mais s'il n'y a pas cette liturgie familiale, il y a quelque chose qui se perd du réalisme de la foi. Et ce réalisme de la foi, vous voyez, il est rattaché à ce premier amour, à cette première alliance. Dieu confie ses tout petits enfants aux parents pour qu'ils les éduquent. Et Dieu a voulu cela. Dieu a voulu cela, il aurait pu faire autrement. Il a voulu que l'enfant soit tout petit, dans un état de fragilité, de petitesse, capable de recevoir toutes les impressions de sa mère et de son père pour qu'il puisse continuer ce que le père et la mère ont vécu dans leur foi, dans leur espérance et l'amour. Il faudrait prolonger cette liturgie, la liturgie des repas. Il y a une liturgie des repas. Vous voyez, c'est l'éducation chrétienne, cela, qui doit encore une fois prendre possession de plus en plus de ce que représente cette communauté familiale. La liturgie des repas, je crois qu'on l'oublie trop souvent. On voit très bien, invité dans tel ou tel endroit, On dit évidemment, si le prêtre est là, on lui demande de venir la table. Et le gosse dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on connaît, n'est-ce pas? Alors, immédiatement, on dit, tais-toi. La vérité sort des enfants, n'est-ce pas? Et là, on voit très bien ce que ça doit être d'habitude. Je comprends très bien. On a aujourd'hui un rythme de rapidité terrible. Mais même si on a un rythme de rapidité terrible, il y a des repas qui se font rapidement. N'oubliez pas la multiplication des pains. Donc il n'y a pas que le repas de Cana, où il y a une bénédiction solennelle parce que c'est un repas de noces. Mais il y a aussi des repas qui se prennent très rapidement. Je crois que même dans la rapidité, on peut garder ce sens qu'on offre à Dieu, l'action de grâce. On remercie Dieu de nous donner la nourriture. Quand on sera privé de nourriture, on comprendra que c'est une grâce de Dieu de nous donner la nourriture chaque jour, de nous donner la nourriture familiale, de nous la donner en surabondance. Et on remerciera Dieu de cela. Voyez, essayez, parce que ça, chaque famille doit trouver cela. Chaque famille doit trouver sa petite liturgie. Et je crois que les jeunes foyers doivent avoir un souci très vite, les jeunes foyers chrétiens, de découvrir cela, de découvrir comment. Il y aura une petite note spéciale. Il ne faut pas chercher l'originalité pour l'originalité, mais c'est quelquefois bon d'avoir sa petite prière particulière. Chaque communauté aime d'avoir sa petite consécration à la Vierge Marie. Chaque petite communauté doit avoir sa prière à Saint-Joseph. Chaque communauté doit avoir son Magnificat. Sa manière de remercier Dieu, qui est un lien qui nous lie profondément les uns aux autres dans la charité fraternelle. Alors là, nous comprenons comment s'exerce le sacerdoce royal de la mère et du père, le sacerdoce royal des tout-petits, des enfants. Il s'exerce dans la charité fraternelle, il s'exerce dans l'adoration, l'action de grâce, la prière.